Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. Tous les mardis soirs, on est de retour pour une semaine de plus, un mardi de plus, pas un mardi de trop. L'équipe du jour avec nous, Nora a repris son siège de régisseuse. Comment vas-tu, Nora ?
Ça va très bien, merci. Et toi ?
Eh bien écoute, ça va à merveille, on est ravis que tu sois de retour parmi nous. Donc tu vas encore une fois jouer le rôle un petit peu de la néophyte.
Bah toujours.
Poser les questions quand on dit des termes un peu compliqués ou quoi.
Toujours ravie et toujours aussi ignorante. Donc.
Eh bien parfait, c'est ton rôle au final, bravo.
Merci.
Avec nous également, Hugo est ici. Comment vas-tu Hugo ?
Ben ça va très bien, je suis malade, je parle du nez, ça va être horrible pour tous nos auditeurs et auditrices. Voilà, donc je préviens tout de suite, je suis désolé, je vais avoir une voix insupportable aujourd'hui.
Ça changera plus que d'habitude.
voilà,
ça c'est fait.
Donc voilà pour l'équipe, Lounis est malheureusement absent cette semaine, voilà, obligation professionnelle. Et ben installez-vous confortablement, on va commencer tranquillement une émission assez chargée, hein. On va débriefer un petit peu toute l'actualité chargée de la semaine.
Mais qui s'annonce très joyeuse.
Tout à fait. Donc, au sommaire, rapidement, on va parler évidemment du PFL Paris. Vous en avez sûrement entendu parler. La fameuse écharde dans le pied de Doumbé. On va y venir en long, en large et en travers, évidemment. On parlera aussi de l'UFC 299 avec la défaite de notre Français Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. On reviendra également sur le reste de la carte parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mmh. Et enfin, on refera un petit tour rapide sur le combat de Francis Ngannou contre Anthony Joshua en boxe anglaise et le chaos monumental infligé par Anthony Joshua sur Francis Ngannou. Donc une image choquante, hein, je pense qu'on peut le dire, hein, on ne s'attendait pas à voir ça.
Si Lounis était là, il dirait c'est cursed, c'est maudit en français.
Exactement. Et bien voilà pour le sommaire, donc sans plus attendre, on va commencer à débriefer les actualités. C'est parti.
Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
La grosse actualité de cette semaine, évidemment, on avait déjà fait la preview dans l'émission de la semaine dernière. C'était évidemment le combat entre Baysangour Shamsoudinov et Cédric Doumbé. Combat au PFL, donc qui a eu lieu jeudi dernier à Bercy, devant une foule en délire. Et combat, donc comme vous en avez peut-être entendu parler, qui s'est terminé par un TKO au début du round 3 suite à Cédric Doumbé qui se plaint d'une épine dans le pied. Hugo, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'était imprévisible ça ?
Honnêtement, 10. J'étais vraiment. J'ai vu cette histoire d'écharpe, j'ai fait mais quoi ? Je l'ai vu en live en plus, je me dis mais non, mais.
Ouais, tout à fait.
C'est pas possible. Enfin, on va revenir dessus
c'est
après.
Une parodie.
Mais avant toute chose, il faut bien dire que c'est inacceptable.
On va y revenir.
Qu'une grosse organisation comme ça. Avec des carrières en jeu, en l'occurrence celle de Baki, pour un combat aussi important en plus, celle de Baki et celle de Cédric Doumbé, c'est incroyable qu'il y ait une épine dans la cage, c'est pas possible.
On va y revenir après, déjà je pense qu'on va déjà se concentrer sur le combat en lui-même et ce qu'on a vu dans les rounds 1 et 2. On le savait déjà, ça allait être une opposition de style entre les deux combattants. Donc, Baysangour Shamsoudinov dit Baki, qu'on va appeler Baki, plus basé vraiment sur la lutte.
Il est espagnol, Baki, c'est pour ça.
Exactement.
Pas du tout, il est tchétchène.
Voilà, donc la lutte, le grappling pour Baki et le striking, le kickboxing pour Cédric Doumbé. Donc voilà, deux styles complètement différents. On se demandait lequel allait prendre le dessus sur l'autre. Et dans le round 1, ce qu'on peut dire, c'est que Baki a complètement submergé, on peut dire, Cédric Doumbé, qui l'a envoyé 5 fois au sol quand même.
Oui, c'est ça. Et c'était plus ou moins ce qu'on avait prévu, puisqu'on avait dit si ça va, si Baki est capable d'aller au sol, bon, Cédric Doumbé va pas faire grand chose. Et au final, c'est ce qu'on avait prévu. Non, c'est pas vrai. Nous, on avait dit, on avait tous dit KO Cédric Doumbé à un moment. Ouais. En l'occurrence, ça n'est pas arrivé. Baki a montré une combativité et un sang-froid incroyable.
Très bonne gestion de la distance aussi. Bonne défense
aussi. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que il a pris des crochets de Cédric Doumbé et il y en a beaucoup. En fait, il y en a beaucoup qui auraient paniqué parce qu'il tape fort. Hein, ça, on n'a plus besoin de tergiverser là-dessus. Mais il y en a beaucoup qui auraient pris un crochet de Cédric Doumbé et qui l'auraient emmené au sol, tu vois, et qui auraient fait un takedown, une amenée au sol panique un petit peu. Mmh. Et lui, il a pas fait, il a collé à son game plan, et même debout, même en striking, il y avait un écart de niveau, mais Baki s'est montré beaucoup plus fort, beaucoup plus doué que ce à quoi on s'attendait. Et moi, j'ai été agréablement surpris par ça. Je pense qu'il a de très belles années devant lui.
Surtout au niveau du premier round, on l'a vu. Moi, je trouve qu'il y a eu un gros travail au niveau des jabs de Baki. Ouais. Il avait des jabs très vifs, très rapides, que Doumbé se prenait régulièrement. Et ça a permis à Baki de constamment maintenir la distance quand il le souhaitait. Et en fait, c'est lui vraiment qui dictait le rythme dans le premier round. Quand il voulait que ça reste debout, ça restait debout. Il maîtrisait Doumbé avec ses jabs. Quand il voulait aller au sol, il partait sur un takedown, donc une amenée au sol. Et en général, ça faisait mouche. Là où du coup, je vais saluer un petit peu Cédric Doumbé, c'est que une fois au sol, Cédric Doumbé s'est très bien défendu et Baki n'a pas réussi à vraiment mettre en danger Cédric Doumbé, en danger de soumission. Donc, mine de rien, que ce soit Baki sur les phases de striking ou Doumbé sur les phases de sol, les deux ont plutôt bien réussi à neutraliser la force de son adversaire.
Ils ont fait bonne figure. Coup, les deux étaient assez... J'allais faire une comparaison, tu vas m'insulter. J'allais dire, ça me fait un peu penser à Volkanovski Makhachev 1.
Alors, je suis d'accord.
Ah, bah voilà.
Non, je suis un peu d'accord.
Dans le sens où on disait, pour Volkanovski Makhachev, donc, c'était toute proportion gardée, parce que pour ceux qui ne se rappellent pas, ce qui m'étonnerait, Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski, c'était un combat entre le champion des poids plumes et le champion des poids légers de l'UFC. Donc c'est quand même un autre niveau, c'est un autre univers de niveau de combat. Et en fait, pour ces deux combattants-là, donc Volkanovski et Makhachev, en fait, on disait Makhachev a une très bonne lutte. Si ça va au sol, c'est Makhachev qui gagne. Et on disait Volkanovski a un très bon striking. Si ça reste debout, c'est Volkanovski qui gagne. Et en fait, durant ce combat-là, on avait été très agréablement surpris par les deux combattants qui ont montré que en fait ils se sont sous-estimés dans leurs domaines respectifs. Makhachev pensait pouvoir gérer Volkanovski au sol. Il n'a pas particulièrement réussi. Et c'était pareil pour Volkanovski debout, où Makhachev l'a touché plusieurs fois assez durement.
Ouais, non, mais je suis d'accord. J'ai retrouvé de ça aussi dans le combat.
Ouais. Et donc là, c'était un peu la même chose.
Voilà.
Surtout,
dans le premier round où j'ai vu ça. Dans le deuxième round, on a vu un Cédric Doumbé qui petit à petit prenait ses repères, arrivait à défendre un petit peu plus, les amener au sol de Baki, toucher un petit peu plus son adversaire. Et du coup, c'est pour ça que le deuxième round, il va plus être pour Cédric Doumbé, là où Baki avait remporté le premier. Et puis, arrive le fameux troisième round. Là, on peut se dire peut-être Doumbé qui commence à prendre un petit peu la mesure de son adversaire.
C'est ce que lui a dit, en tout cas.
Sachant que c'était le dernier round du combat, en plus.
Après, entre ce qu'il dit et ce qui se serait passé...
Oui, voilà.
Mais c'est ça qui est extrêmement chiant. Ouais.
Et au bout de 1 minute 30, je ne sais plus exactement, Cédric Doumbé, on voit qu'il n'arrive plus trop à poser son pied par terre. Il se plaint une première fois au niveau de l'arbitre, comme quoi il arrive pas. Enfin, on comprend pas trop sur le direct, mais il se plaint auprès de l'arbitre, comme quoi il y a un truc qui le gêne au niveau du pied et tout. L'arbitre, donc Marc Godard, qui est un arbitre très expérimenté, qui a arbitré de nombreux combats à très très haut niveau, lui dit continue le combat, on y est pour rien. Et ensuite, Cédric Doumbé se plaint une deuxième fois, comme quoi il peut pas poser le pied. Et là, cette fois-ci, Marc Godard dit écoute, si tu peux pas terminer le combat, on arrête, chaos technique et victoire pour Baki. C'est ce qui s'est passé. Donc, au début, on était tous un petit peu dans l'incompréhension totale. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi ce bordel, pardonnez-moi pour le terme.
Ah non, c'est vraiment ça, c'est un bordel, ça, ah oui, ça nous a privé d'une super fin de combat. Hein.
C'est ça, et à un moment, il y a Doumbé donc, qui va dans son coin, qui s'assoit sur son tabouret, il y a un gros plan de la caméra sur le pied de Doumbé, et on voit une écharde. Et là, on se dit, mais non, mais c'est pas possible.
Genre... C'est vraiment, c'est choquant, quoi.
Ah oui, non, mais c'est ça.
C'est pas possible que le PFL, qui se veut un concurrent concret et solide face à l'UFC, fasse des... Mais c'est même pas, j'allais dire une erreur. C'est pas une erreur, c'est une faute professionnelle.
Ouais, je suis d'accord.
C'est, en fait, il y a des carrières en jeu. Il y a beaucoup d'argent. Tu peux pas laisser ça arriver. Alors, comment c'est arrivé ? On sait pas trop. Le problème, c'est que je crois qu'ils ont fait monter pas mal
de célébrités de guest stars.
Voilà, donc déjà, si tu fais monter des célébrités qui sont allées dehors, qui ont marché un peu partout, qui ont probablement ramassé un tas de merde, excusez-moi l'expression, mais ont probablement ramassé un tas de merde sous leurs chaussures, si tu les fais monter dans l'octogone, il n'y a pas de souci, mais si tu les fais monter, bah après... Tu passes un petit coup de balai. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu trouves une solution, quoi. C'est
Nora a une question. Vas-y, Nora.
Oui, en fait, je vous écoute depuis tout à l'heure. Déjà parce que je suis un peu là pour ça, mais non, mais j'ai entendu parler un peu comme tout le monde du combat Doumbé contre Baki. Malheureusement, j'ai pas pu y assister parce que j'avais pas de réseau là où j'étais. Et en fait, vous parlez du coup du rôle du PFL dans ce combat et ce petit truc, une écharde, donc on trouve. Un élément extérieur qui vient influencer le combat. Je comprends vos propos, mais si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'on esquive peut-être un petit peu le cœur du sujet. On a tous déjà eu une écharde à un moment donné dans le corps. Bon, on n'en meurt pas.
Et c'est pas une question de néophyte, ça.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'interloque le plus, c'est pas tant le rôle du PFL que la réaction de Doumbé face à cette petite écharde. Et de là, en fait, à se dire, bon, bah, on va arrêter le combat pour ça. Tu sais, on connaît des combats où il y a eu vraiment des fractures, des trucs, des arcades où ça pissait le sang. La douleur est là. On le sait. Oui, une écharde, ça.
C'est très pertinent ce que tu dis dans le sens où Cédric Doumbé qui dit non mais enfin Baki n'a pas gagné.
Oui non mais
le problème, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off quand on en discutait, le problème en fait c'est que en effet les règles c'est un combattant n'a pas le droit d'arrêter le combat lui-même. Et là Cédric Doumbé il s'est plaint une fois, l'arbitre lui a dit non, on continue. Bah Cédric Doumbé, il n'a pas le choix. C'est-à-dire
qu'il aurait dû arrêter, ne pas se plaindre une deuxième fois. Quoi.
Voilà, il n'aurait pas dû recommencer parce que... Bah,
et là, c'est ce qui s'est passé en fait. Il s'est plaint, il y a eu un temps de pause.
Il y a eu un avertissement et lui, il s'est replaint. Et
d'accord.
En effet, lui, dans sa tête, il se disait « Ah mais non, mais, bah, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs après. » Il a dit « Mais non, mais il y avait juste à arrêter le combat, faire rentrer un médecin, enlever l'écharde. » Et en fait, bah, ouais, mais l'arbitre, il a dit,
ouais, mais
et
juste ça, il c'est a raison.
Et imagine si ce n'est pas visible.
C'est ça.
Imagine si mais c'est pas c'est visible et qu'il n'y a pas d'écharde et que bah, c'est juste une tactique de Cédric Doumbé pour gagner du temps. Bah, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et justement, en fait, ça fait que Cédric Doumbé a perdu et ça, et c'est aussi de sa faute parce que c'est censé être un. Enfin, c'est quelqu'un de très expérimenté en kickboxing et qui a eu quelques combats en MMA aussi. Il est censé savoir que tu ne peux pas arrêter le combat toi-même et que si tu arrêtes le combat toi-même, si tu te plains trop de douleur, bah ouais, tu peux pas continuer.
Sachant
et en plus
que...
de ça, comme tu dis, je finis juste. Oui. En plus de ça, comme tu dis, enfin, il y a des combattants qui ont terminé des combats avec des blessures bien plus graves. Mais ça ne serait pas arrivé si le PFL était plus professionnel.
Mmh. Ouais. En fait, c'est surtout ce qu'on disait aussi, c'est que les combattants qui se cassent une main, qui se cassent un pied, tout, c'est des choses inhérentes au combat, qui font partie du truc.
Oui, ça fait partie des
là,
risques acceptés. Hein,
c'est un truc extérieur qui a rien à voir. En fait, c'est ça qui est compliqué. Et ce dont se plaint Doumbé, s'il arrêtait. En fait, c'est pas s'il voulait faire une pause. Je pense que c'est pas parce qu'il souffrait de douleur. Je pense pas que ça lui faisait très mal. Mais on peut comprendre que ça le gênait un peu. Et se gêner un petit peu dans un combat aussi important, le moindre petit détail ça joue, et ne pas pouvoir poser complètement le pied sur la cage quand on sait que dans ce sport-là les appuis, le mouvement de jeu, le jeu de jambes, tout ça c'est très important. Bah une petite gêne forcément, ça fait que t'es pas à fond pour un truc ou t'y es pour rien.
Je t'avoue que je suis un peu sceptique sur vraiment la gêne durant le combat parce qu'on parle quand même de sceptique n'importe quoi, de sportifs de haut niveau qui sont
tout
habitués
compte,
quand même. Attends, t'imagines que tu t'engages dans un sport où ton métier c'est de prendre des coups dans la gueule, pardon l'expression.
Ouais, mais, là,
mais ce que je veux dire c'est que tu as vraiment la gêne d'une écharde. Moi après c'est peut-être la réaction la plus commune, mais j'avoue que
en MMA t'as pas ce genre de blessure.
Je suis un petit peu sceptique.
L'écharde dans le pied, Bon, après, ça fait pas longtemps que je fais du MMA, mais moi, en tout cas, j'ai jamais entendu parler d'une douleur qui s'approche de l'écharpe dans le pied, dans le sens où, bah, en fait, si t'as un, comment dire, si t'as un orteil cassé, je sais pas où je m'aventure là, mais si t'as un orteil cassé, bon, tu peux quand même poser le pied, etc. Là, l'écharpe, ça... Non, je vais m'arrêter là.
Non, mais en fait, parce que ça me fait penser à une anecdote. Enfin, je connais quelqu'un, je vais pas le citer, mais qui actuellement est un pied dans le plâtre parce qu'il s'est pété l'orteil justement en faisant du jiu-jitsu. Merci, vraiment, c'est super chiant à prononcer. Et tu vois, lui-même expliquer que bah, durant ce temps où il s'est effectivement pété l'orteil durant un entraînement, n'a pas senti, enfin j'espère vraiment que je ne déforme pas ce propos, mais il me semble qu'il m'a dit qu'il n'a pas senti cette douleur parce que bah, dans le feu de l'action, en fait. Tu vois, c'est pour ça, le truc de... Voilà. Le truc de l'écharpe, moi, ça me paraît énorme.
Ouais, parce que c'est... en fait... Je pense que pour résumer un petit peu les parts de responsabilité dans cette histoire, c'est inacceptable qu'il y ait une écharpe dans l'octogone, et ça c'est la faute du PFL. Si elle est là, c'est la faute du PFL, c'est entièrement de leur faute, et d'ailleurs j'ai pas entendu d'excuses particulières, mais
je suis passé à côté en tout cas,
ça,
peut-être.
Ça devrait être le cas parce que c'est scandaleux, c'est pas possible de faire ça.
J'espère au moins qu'ils se sont excusés auprès de Doumbé en privé.
J'imagine. Alors... Et même Baki, parce que même Baki il s'est fait voler une fin de combat, lui il avait pas envie de gagner comme ça non plus. Donc déjà il y a ça, c'est inacceptable qu'il y ait une épine dans l'octogone et c'est entièrement de la faute du PFL. Par contre... Pourquoi le combat a été arrêté? Ça, c'est aussi de la faute de Doumbé, dans le sens où il est censé connaître les règles. Et même si les règles sont dures et que parfois, bah, faut faire des choix. Bah, là, en l'occurrence, on peut pas faire rentrer un médecin comme ça si au final il s'avère qu'il n'y a pas d'écharde. Il est censé connaître les règles. Nul n'est censé ignorer la loi. Oh,
très ça. Très juste. Mais du coup, ce qui me fait penser à super drôle. Ce qui me fait penser à petite question. En fait, tu mets sur le tapis le rôle du PFL là-dedans. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des recours, des actions qui sont intentées pour
faire une revanche?
Non, mais je veux dire. Enfin, après, en fait, honnêtement, je sais même pas s'il y a des voies de recours possibles dans un combat quand. Il y a une décision, est-ce qu'on peut...
On peut rien faire.
Parce que, ça aurait pas pu être un de nos contests, parce que...
Dire quelle est la décision
c'est vrai que c'est bizarre que ce soit pas un de nos contests en soi. Je crois qu'ils l'ont expliqué, mais je m'en rappelle plus pourquoi.
Un no contest, qu'est-ce que c'est?
Un no contest, c'est on dit il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de défaite. Bah, par exemple, ça arrive souvent que... coup de genou, doigt dans l'œil au premier round, sans faire exprès, le mec peut pas continuer, bah no contest, parce que il y a un doigt dans l'œil involontaire d'un côté et de l'autre côté, bah l'autre peut pas continuer le combat, mais on est sur ni vainqueur ni vaincu finalement.
C'est exactement ça.
Sans décision.
Mais
d'accord.
Du coup, je me demande pourquoi ils ont pas fait ça pour ce combat-là.
Parce que je pense que c'est un truc qui est hors de la juridiction PFL.
J'ai la réponse. Je sais pourquoi, c'est parce que c'est Doumbé qui a dit on arrête. C'est Doumbé qui a dit, c'est l'arbitre a dit non, on continue le combat et Cédric Doumbé a contesté d'une certaine manière et du coup bah.
C'est ça.
Et donc le résultat du combat c'est quoi?
C'est Baki qui a gagné par chaos technique.
Voilà. Chaos technique. Donc chaos technique. C'est si je dis pas de bêtises, c'est le
combattant ne peut plus combattre.
C'est ça.
Okay. Mais il est conscient.
Donc selon l'arbitre, le combattant ne peut plus combattre, donc l'arbitre arrête. Voilà. Du coup, voilà un petit peu donc ce qu'on pouvait dire sur Doumbé Baki. Je pense qu'on est tous les deux d'accord, les deux gros perdants de cet événement, c'est d'un côté Doumbé forcément qui perd le combat sur un événement extérieur et le PFL qui se ridiculise devant le monde entier et devant la France entière. Voilà, c'était un petit peu voilà PFL Bellator, la réunification il y a peu, donc on s'attendait vraiment à ce que cet événement relance un petit peu le PFL en termes de popularité.
Et puis c'était le plus gros combat de l'histoire du MMA franco-français.
Ouais, c'est ça. On peut aussi parler de Gan Ngannou, mais...
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà. l'un, l'un des plus gros, le deuxième derrière Ganem Ganem, je pense.
Et du coup, bah, c'était censé un petit peu faire une vitrine pour le PFL. Au final, ça s'est transformé en une ridiculisation absolue, quoi. Là, ils ont perdu beaucoup en crédibilité.
Ah, oui.
Et ça va être compliqué. Là, l'UFC, ils se sont frottés les mains quand ils ont vu ça.
Non, mais le potentiel, c'est con, parce que vraiment, le potentiel, quoi, c'est...
Ah oui, non.
Là, il y avait le potentiel, enfin... On a eu un super combat quand même, parce que c'est vrai que
les deux premiers rounds étaient très bons.
On se plaint, mais les deux premiers rounds étaient super. Baki, il nous assure, parce que tout le monde, non, c'est pas vrai. Il y avait deux camps, le camp Baki et le camp Doumbé, et le camp Doumbé disait il va se faire éteindre. Et en général, les gens qui étaient pas dans le camp Doumbé et qui étaient un peu plus mesurés, bah, un peu comme nous qui sommes pas particulièrement fans de l'un ou de l'autre. Mm-hmm. Tu fais une tête bizarre ?
Ah non, du tout, vas-y.
Fan de Doumbé ici, là.
Ouais, tout à fait.
T'es un MMX, aurait. Non, mais voilà, nous qui sommes pas dans un camp ou dans l'autre, bah, on voyait plus une victoire de Cédric Doumbé par KO, souvent au premier round, et on essayait d'être objectif. Et en fait, Baki, il nous a montré. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il a fait avec 7 combats en MMA, je crois. En striking face à une légende, c'est parce que c'est une légende, Cédric Doumbé, une légende du glory.
Du kickboxing, ouais, tout à fait.
Du coup, du striking d'une certaine manière. C'était impressionnant.
Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce combat entre Baki et Doumbé au PFL. En attendant, du coup, la suite pour les deux combattants, peut-être une revanche, peut-être chacun de leur côté. On verra bien dans les jours et les semaines qui vont suivre. On va se faire la première petite pause musicale. C'est Hugo qui a choisi les musiques, si je ne me trompe pas.
Alors, deux sons aux antithèses de mon spectre musical, là, aujourd'hui.
Vas-y, dis-nous, c'est quoi ? Je ne les ai pas devant moi.
La première, si je me rappelle bien, c'est Déjeuner en paix de Stéphane Escher.
Eh bien écoute, on s'écoute Déjeuner en paix de Stéphane Escher et on revient juste après. C'est parti.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde. Sur la nature humaine, c'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? En paix, en paix.
Bagarre Club.
On est en direct de retour sur Prune. On est de retour en direct sur Prune. Ouais, voilà, j'ai inversé les deux.
Tu sors.
Allez, c'est parti. On est de retour en direct sur Prune. C'est nettement mieux comme ça. Donc, on a débriefé le combat entre Doumbé et Baki. On va ensuite maintenant parler de l'UFC 299 qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. UFC extrêmement attendu dans le monde et en France particulièrement. Parce qu'on a eu justement le combat et la malencontreuse défaite de Benoît Saint-Denis contre la légende Dustin Poirier. Hugo, vas-y, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé dans ce combat.
Alors, Benoît a commencé le combat en faisant un premier round exceptionnel. Vraiment, il a fait un premier round exceptionnel face à Dustin Poirier qui est top 3 de la catégorie, qui est considéré comme le roi sans couronne de cette catégorie-là, des poids légers. Parce qu'il n'a jamais été champion, mais il a le niveau, quoi. Il a le niveau pour avoir des title shots à répétition, quoi. Et il a dominé. Donc Benoît Saint-Denis a dominé Dustin Poirier pendant un round où en striking il s'en est sorti pas trop mal, ce qui est le point fort de Dustin Poirier. Et il a réussi à l'amener au sol et je crois qu'il l'a menacé trois fois de tentative de soumission,
ouais,
quoi.
Tout à fait,
ouais. Il avait son dos trois fois et il était à deux doigts de l'avoir, quoi.
Il a manqué un
merde.
Petit truc pour aller chercher sursaut, la soumission.
Ouais. Mais pourquoi n'a-t-il pas eu ce petit sursaut? Et surtout, donc voilà, premier round très disputé.
Deuxième round, ça commence sur les mêmes bases.
Même pas. Arrêtons-nous à la fin du premier round. Fin du premier round, Benoît Saint-Denis est épuisé. Et il est crevé. On n'avait jamais vu ça, il était épuisé. Et en fait, on avait eu la raison un petit peu avant, on s'en doutait, et on a eu la confirmation après. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais du coup, voilà, donc fin du premier round très fatigué. Il a commencé un deuxième round, pareil.
Sur les mêmes bases que le premier.
Voilà, il y allait. Et je crois que c'est durant le deuxième round aussi.
Mmh. Oui, c'est ça. Poirier se relève. Il arrive à se relever. Ça part un petit peu en échange de striking.
Ça part en bagarre.
Les deux un petit peu tête baissée.
À mi-distance.
Voilà, c'est ça. Et Dustin Poirier envoie un crochet du droit, il me semble. Vraiment extrêmement bien placé.
Vraiment, c'est son point fort. Hein.
En termes de timing et de précision, c'est à montrer dans tous les dojos. et voilà, ce crochet du droit qui vient éteindre Benoît et le mettre KO. C'est une image qu'on s'attendait pas à voir, ça, Benoît Saint-Denis KO. Hein.
C'était KO, je crois, parce qu'il était pas.
Oh, il était quand même bien.
Il était pas. Il aurait pas pu continuer. C'est ça. Mais il était pas inconscient, quoi.
Non, mais il
était bien sonné.
C'est ça.
Là, si Dustin continuait au sol, bon, il mourait, quoi. Non, mais enfin, on rigole, mais c'est un rire emprunt de larmes.
Exactement.
Parce que ça nous a vraiment.
Et du coup, Hugo, t'as mentionné un Benoît Saint-Denis un petit peu diminué. Quelle était donc cette raison?
Alors, je sais pas si je dirais un petit peu, parce que Benoît Saint-Denis, juste avant son combat, a souffert d'un. Je ne sais pas si c'était un staphylocoque, mais en tout cas, c'était une infection. Et il était sous antibiotiques pendant le combat.
Pendant la semaine d'entraînement et tout. Donc,
je ne sais pas, mais la semaine juste avant le combat, il était sous antibiotiques. Voilà. Et en fait, il est arrivé à ce combat extrêmement diminué, ce qui ne l'a pas empêché de faire un round et demi exceptionnel. Non, mais ça, je n'en reviens pas.
Ah oui, non, mais oui.
Un round et demi exceptionnel face à DP. The Diamond. Et voilà. Et donc, on lui a beaucoup reproché à la fin de ce combat de ne pas s'être assez économisé. Mais en fait, c'était une stratégie logique, dans le sens où il savait qu'il n'allait pas avoir l'énergie pour faire 5 rounds dans tous les cas.
Donc, il s'est dit, on donne tout au début, dans le premier round, tant que j'ai encore de l'énergie. Et si jamais et j'essaye de chercher la finalisation dans le premier round, ça n'a pas suffi.
Ce qu'il a fallu. C'est... Alors après, avec Desi, avec Desi, je serais déjà champion UFC, mais pour le coup, à deux doigts, quoi, c'est terrible. Après, Dustin Poirier est quand même ceinture noire de jiu-jitsu, mais c'était pas loin, quoi.
Donc la rumeur, c'était staphylocoque. Staphylocoque, c'est une infection qu'on qui est assez, enfin, plus ou moins fréquente dans tout ce qui est salle d'entraînement où il y a un petit peu de sueur, de sang et tout. C'est des infections qui peuvent, arriver. Enfin, c'est pas fréquent.
C'est un manque d'hygiène.
Ouais, c'est ça.
C'est qu'il a des problèmes. Il a dû choper ça dans la salle où il s'entraînait. C'est dommage.
Donc, c'est un peu bête, quoi. C'est un peu bête de ruiner un combat là-dessus. Mais bon. Là, du coup, ce qu'on va se poser comme question, notamment pour Benoît Saint-Denis, mais on verra aussi pour Dustin Poirier, ça va être la question de la suite. Donc là, ce qu'on s'était dit un petit peu à chaud après avoir regardé le combat, Lounis l'avait dit d'ailleurs, c'était que peut-être la marche était un peu trop grande. Voilà, on s'en doutait, non, mais on s'était déjà posé la question quand le combat avait été annoncé. Il y a déjà un grand écart au classement et en termes d'expérience entre Benoît Saint-Denis et Poirier. Ça s'est fait ressentir, même si, bon, on l'a dit, infection, tout ça, voilà, ça fait partie du truc. Est-ce que maintenant, pour Benoît Saint-Denis, ça va être, voilà, continuer un petit peu de se refaire les dents, gagner en expérience sur des combattants un petit peu moins... sur des combattants un peu moindres?
Bah, alors, tu sais quoi, je vais passer en mode fanboy pendant 5 secondes, là. C'est mon intuition première. C'est bon, après voilà, faut rester mesuré, mais là je vais laisser les robinets ouverts. Honnêtement, je pense que c'est pas une excuse, mais s'il avait été sain, s'il n'avait pas été sous antibio, je vais le dire, je donnais pas cher de la peau de Dustin Poirier, d'accord. Le chaos aurait été dans l'autre sens. Non, mais en vrai, alors après, c'est une défaite. Voilà, on va pas chercher des excuses. Ce n'est pas une excuse qu'il ait été sous antibio. C'est un fait. Il était sous antibio, donc ça l'a diminué pour son combat. Mais il a quand même choisi de combattre même en étant sous antibio. Donc ça veut dire qu'il pensait qu'il pouvait gagner. Et en vrai, mais même sous antibio, il a mis un bouillon à Dustin Poirier. Mettre un bouillon, c'est une expression pour dire
il a dominé.
Enfin voilà, il a dominé, mais ouais. Vraiment de. Enfin, il lui a fait vivre un enfer, quoi. Bon, je sais pas si c'était un enfer, mais en tout cas, il a eu du mal.
Il l'a mis en grande difficulté.
Merci. Voilà, le dictionnaire.
Exactement.
Mais voilà, donc malheureusement, il était sous antibiotiques. J'ose espérer qu'ils ne feront pas l'erreur de reprendre un combat, de refaire un combat diminué comme ça. Mais voilà, je me dis que si on faisait une revanche dans 3 mois et que Benoît arrivait en pleine forme, voilà, je pense que maintenant, il serait capable de gagner. Il a sa place dans le top du classement, et d'ailleurs c'est Dustin Poirier qui l'a dit.
Maintenant, je pense que la catégorie est tellement stackée, donc tellement serrée, il y a tellement de monde que ils peuvent pas se permettre de faire des revanches à droite à gauche.
Non, donc, c'est pas possible.
Ouais. Donc moi, je me suis penché un petit peu sur les prochains adversaires potentiels de Benoît Saint-Denis, et j'ai 3 noms qui sont ressortis. Le premier, c'est Dan Hooker. C'est après sa victoire contre Matt Frivola, c'était déjà un nom qui était ressorti.
Non, je t'arrête tout de suite. Moi, j'ai pas envie que Benoît Saint-Denis perde encore 3 années de vie, parce que Dan Hooker, c'est la bagarre. Hein. C'est vraiment la bagarre.
Oui, mais le problème, c'est que là, ça va être le cas avec tous les adversaires. Tous les combattants qu'il y a là, c'est le cas.
Ah non, pas à ce niveau-là. Hein.
Oh, donc, voilà. Moi, je pensais à Dan Hooker, un guerrier, striking. Dans le même genre, qui a été longuement blessé, qui va peut-être revenir un peu dans les bons timings, c'est Raphaël Fidiev, le combattant polonais. Et là aussi, ça va être un combat haut en couleur. Et j'ai pensé aussi à, pourquoi pas, le gagnant entre Jalin Turner et Moïcano, qui aura lieu à l'UFC 300 dans un mois.
Ouais.
Qui pourrait être intéressant.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'est des combattants qui sont entre la 12e et la 8e place des poids légers.
Et
donc voilà, c'est le ventre le ventre mou, non, parce que c'est absolument pas mou ici, hein, vraiment.
C'est sec.
C'est ça. Donc c'est vraiment voilà, c'est un petit peu le sas de décompression.
Et Mathieu Gamrot, ouais, qui Gamrot est classé 5e.
Gamrot est déjà devant et il vient de gagner en plus. Donc je pense.
Bah ouais, mais tu veux le faire combattre qui d'autre?
Ben Gamrot contre le perdant de Gaethje Holloway. Ou le perdant d'Olivera Tsaroukian.
Non, parce que là, en soi...
Qu'est-ce qu'il y a?
Je sais pas.
C'est ça le
moi,
truc.
Moi, ça me plaît pas. J'ai envie qu'il monte, Benoît, mais là...
Ouais, mais là, pour l'instant, on lui a déjà donné une chance dans le top 5. Il a perdu. Il va falloir qu'il attende qu'il fasse ses dents contre les top 6, 7, 8, 9.
Mais alors, je sais pas
9.
Si t'as vu, mais il a monté d'une... D'ailleurs, Dana White... Benoît, il a Dana White dans sa poche, hein. Je sais pas si t'as vu les déclarations, oui. Mais Dana White, il a dit, on n'aime pas Dana White ici, mais il a dit, il a la bonne, quoi. Il a dit, ça n'entache absolument pas l'image de Benoît.
En fait, c'est exactement ce qu'on disait avant le combat, c'est que Benoît Saint-Denis n'a rien à perdre. Il fait face à une légende, il gagne, c'est exceptionnel, il perd, ça arrive. C'est Dustin Poirier en face, personne ne reprochera à un combattant de perdre contre Dustin Poirier.
La confiance que son camp avait en se disant, enfin, que lui et son camp avaient en se disant, ouais, j'ai été sous antibio une semaine avant le combat, je suis quand même capable de gagner face à Dustin fucking Poirier.
Exactement.
Et encore une fois, putain, il a failli, quoi. Ça, Hugo, ça va m'empêcher de dormir.
Faut voir Hugo, hein, en vrai, il est...
Hey, attends.
Les yeux rouges, les larmes.
Ah, mais non, mais attends, en vrai, paradoxalement, c'est le premier UFC depuis un moment où j'ai été à peu près mesuré.
C'est vrai.
Où il y avait un Français qui combattait et où j'ai été capable de dire, bon, c'est
triste. Ce sont des choses qui arrivent.
Voilà, ce sont des choses qui arrivent.
Oupsi-doupsi, gamin.
Ça donne quoi quand t'es pas mesuré, du coup?
Il est de très mauvaise foi. Il est de très très mauvaise foi.
Cyril Gane John Jones, c'est mon Vietnam à moi.
C'est bien, on est dans la mesure ici en fait.
Ah non, mais vraiment, ah non, t'étais pas là, mais Cyril Gane John Jones, vraiment, j'étais assis devant la télé, la bouche ouverte, en me disant putain, c'est pas possible, c'est un rêve, c'est un cauchemar, je vais me réveiller, c'est pas possible que Cyril Gane il soit fait rouler dessus par. Je vais le faire par le grand-père qui n'a pas combattu
combattant assez vieux, bon voilà,
qui était tout ouais. Tout mou.
Mais du coup, ah, ouais, tout ça pour dire que
Hugo façon, est de mauvaise foi.
C'est ça.
Non, mais là non, ça non, va, là ça non, va. Non, ouais, non, mais... Je suis de mauvaise foi pendant les 2-3 heures après le combat et après ça va, ça se délie un petit peu.
Après tu as l'honnêteté de reconnaître que tu n'es pas honnête.
Exactement.
Déjà, il y a de l'effort.
Non, mais après, ouais, bon, du coup, ça fait. En fait,
on est quand même des analystes MMA. Enfin, voilà,
non, mais tu vois, on est avant tout.
Partie.
On est avant tout des fans, forcément, on est des passionnés, ça fait jouer nos émotions. Ouais. Donc, bon, on a des réactions quand on est à chaud, exactement.
Sauf ouais. Lunis. Lunis voilà. N'a aucune émotion en regardant un combat de MMA.
C'est plaisante.
Lunis, il prend son combattant préféré, il dit ouais, je sens qu'il va se faire défoncer ce soir. Et ça arrive et il est en mode. Bon,
non, mais parce que
ce sont des choses qui arrivent.
Mais parce qu'il sait se contenir, mais en vérité, Lounis a beaucoup d'émotions.
Oupsi-doupsi, il rit.
Ouais, une fois, je crois que je l'ai vu sourire, Lounis.
Ouais. Oh, vous êtes
c'est
mal.
Alex Pereira, Lounis. On l'aime beaucoup.
C'est si peu vrai.
Honnêtement, Alex Pereira, c'est l'un des modèles de Lounis. Je pense qu'il aimerait beaucoup lui ressembler. Un non, jour, il se rasera la tête.
Voilà du coup ce qu'on pouvait dire. Sur le combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, donc une défaite qui est pas si dramatique que ça. Il va rebondir, il va casser des gueules à d'autres combattants.
Mais tu sais quoi, moi je vais même dire quelque chose. Benoît Saint-Denis un jour il sera champion. Voilà.
Bah on sait pas. Mais
bah rappelons que Islam Makhachev s'est fait mettre KO par un mec qui n'était même pas classé au début de sa carrière. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc Islam Makhachev actuel champion des poids légers.
Voilà, là.
Ça moi, j'ai une petite question, parce que tu as l'air quand même de louer beaucoup Benoît Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous faire vraiment très rapidement toutes les raisons pour lesquelles tu aimerais le voir champion, justement?
Parce que c'est un Français.
Ouais, non, c'est pas un argument, ça, Hugo. Mais c'est non, pas juste un...
On n'a jamais eu de champion français. Enfin, si, Francis Ngannou. Mais, oui. On manque de champions.
Quelles sont les qualités
UFC,
sportives que tu lui reconnais? Qu'est-ce que tu lui...
Très complet. Okay. Mentalité sans faille. Mm-hmm. Il se donne à fond. Il donne du spectacle en fait, tout simplement.
Très intelligent, très technique.
Voilà, c'est ça, très technique. Et voilà, en fait.
C'est... Voilà, donc il est pas juste français. C'est quand même un bon sportif d'après toi.
Ah oui, bien sûr. Ça, ouais. Enfin, je veux dire, tout à fait. Si Sean Strickland était français,
je rappelle vraiment que je suis
néophyte champion.
Parce que la question doit vous sembler.
Ah non, mais tu as bien raison.
Moi, je me sens attaqué. Voilà.
C'est ça. Non, mais absolument pas. Mais c'était de la curiosité tout à fait sincère parce que je te sens plein d'entrain envers Benoît Saint-Denis.
Ah de ouf.
Et ça me donne envie de comprendre.
Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le combat de notre français Benoît Saint-Denis. On va faire une dernière pause musicale. Hugo, c'est quoi la deuxième musique que t'as choisie?
On s'écoute. Where's the confetti de Jev?
Et ben voilà, on s'écoute ça et ensuite on va parler du reste de la carte et de Ngannou Joshua. À tout de suite.
Yo. Call me. Where the confetti?
ready. Niggas get shot like the camera ready. Like my shooters working Polaroid. Niggas got Grammy energy. I got social wars. Sober dogs trying to get this liquor. I've been sipping on. Living on my last breath. Chopper still sing like it's lab bread. The lab rap. Please, I'm richer than Devonport. With that holy grail, nigga. I fill it with seven pores. On that brown liquor drinking till my speech has got a slur. Man, I see the cracks. The dimension windows. Narrowing. See, they use their civil spoof for heroin. Fuck rock though. When I'm shooting outside your glass house. Freezing until a nigga fall. Pass up, please. Never took Zans, I took Sensu beans. Cold as ice, play tag with my Jesus beast. Tell anxiety to suck my dick. I went from panic attack to protect. Went from plan of attack to attack, nigga. I'm true face any. I can wish a nigga well and drop his gun pennies. I'm invincible. Read it like the young Kindle. Got more bars to sell signals. Heart ain't empty, it's simple. Be sinful, cause most of y'all still hating. I'm when your favorite looking up to me like a nosebleed, nigga. Please, I was like you. Took an Alice employee, now I'm owner. Damn, it's colder than the flu season and pneumonia. When the mic's still bloody, nigga, this ain't toner. When the gang need hard, I'm a fucking donor. I'm a licks, I ignorance. Get to die, hypocrites. I'm a ride, villainish. Danger likes a syphilis. I know niggas put the pyramid. I know shit ain't sweet, but some licorice. Cause if you think outside the box, they might put you in the box. Get down, they already know it is drugs. I'm the type to catch it, throw it back like a shrimp life record. Came back like I resurrected. The fact that the vendor is fuck on my nemesis. And they just the relatives. I'm playing with your averages. It's flattery. They think you fuck with Jeff. Negative. Fuck your girl, right? Back to sleep like a sedative. The crown on my cranium is negative. I've been on your asses for 5 years consecutive. The band's all white like it's rectified. Know you sick inside when you see a nigga drive. Surprise, nigga, I'ma roll out the window. Let's start shooting, everybody had a pity party. I got targets on my back, y'all got V's on your back. Ain't scared of your niggas, Bernie Mac. Confetti, niggas get shot like the camera. With the confetti, niggas get shot like the camera. Ready, ready. Yes, sir.
On est de retour en direct sur Prune, on va passer à la troisième et dernière partie de votre émission du Bagarre Club. On a déjà parlé un petit peu du co-main event de l'UFC 299, maintenant on va s'attarder un petit peu sur le main event donc qui opposait la star à devenir Sean O'Malley, donc champion des poids bantam, donc des poids coq. Un autre combattant, Marlon Vera, combattant équatorien, et on a eu une victoire en force,
vraiment écrasante.
Une démonstration sur 5 rounds de la part du champion Sean O'Malley. Hugo, quelle a été ton impression sur ce combat quand tu l'as vu en direct?
J'en croyais pas mes yeux. Autant je savais que, enfin, je me doutais qu'il y avait un petit écart de niveau quand même, parce que Vera, il s'est quand même sur ses trois dernières performances avec ce combat-là, il a eu du mal.
Il y a deux défaites, donc en comptant ce combat-là, et une victoire, voilà, qui est pas très convaincante, qui était contre Pedro Munhoz.
Ouais, mais du coup, déjà le title shot, il l'a eu grâce à sa rivalité avec Sean O'Malley.
Parce que Vera était le seul combattant à déjà avoir battu Sean O'Malley.
Exactement. Il avait gagné
suite à une blessure
de manière un peu controversée. Ouais. Sean O'Malley s'était blessé, mais une blessure qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça l'avait handicapé. Mais voilà, donc c'était la seule blessure de Sean O'Malley. Il voulait le venger. Et en fait, excusez-moi, je suis malade. Il voulait venger sa défaite et il l'a fait de manière magnifique. Il l'a fait avec
clair,
panache.
Clair, net et précis, en maîtrise. Voilà. Voilà.
De 0 seconde à 25, ah oui, 25 à minutes. Quoi.
Donc, pour résumer un petit peu le combat, round 1 au Malais qui défend super bien, qui vraiment dose très bien son adversaire. Voilà, des petits jabs, il maintient la distance, il dicte le rythme. On sentait Vera qui avait un petit peu peur des coups et des contres de Sean O'Malley, parce que Sean O'Malley a mis pas mal de KO comme ça, notamment contre Aljamain Sterling lors de son dernier combat. Donc on sentait un Marlon Vera qui avait un petit peu peur d'engager et qui reculait énormément dès qu'il y avait un début de combinaison de son adversaire. Donc avec ça, en fait, dès que Vera essayait un petit peu de pousser O'Malley contre la cage, bah O'Malley il déclenchait un enchaînement. Si ça touchait, ça faisait mal, Vera reculait. Si ça touchait pas, Vera avait peur, ça reculait. Donc déjà, à partir de ça...
On l'a senti un peu battu mentalement à un moment.
Ouais, très vite. Il a essayé un petit peu, donc au fur et à mesure des rounds, de se livrer un peu plus parce qu'il n'avait plus le choix. Il perdait les rounds. S'il voulait gagner, c'était par finition. Et O'Malley, à chaque fois, réussissait très bien à se dépêtrer un petit peu de tout ça. Il gérait la distance. Il était très mobile. Il dosait très bien avec son jab, avec son bras arrière. Un timing sur les contres, vraiment... Très très.
Faut l'étudier ça. C'est un combat qu'on va regarder pour essayer de s'améliorer de notre côté. Quoi.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que je disais un petit peu en off. C'est un style qui m'a un petit peu fait penser à un Israel Adesanya dans le côté vraiment très. Déjà même physiquement, voilà, c'est un combattant qui est très grand, très fin.
Longiligne.
Voilà, qui est longiligne, qui a une grande allonge, qui est très très fort sur les contres et qui a une puissance non pas directement une puissance physique. Mais une puissance qui vient de la technique pure, du timing et de la précision de ses coups. Ouais. Et c'est comme ça qu'il fait mal à ses adversaires. Plus que vraiment par une force physique, comme peut être dans la catégorie peut-être un Petroyan ou quelque chose dans le genre.
Donc, voilà, Petroyan très très technique, cependant.
Voilà. Donc, toi Hugo, ce que tu disais aussi, c'est que c'était une performance un petit peu qu'on attendait de la part d'un champion.
Bah, c'est ça, face parce à un cinquième. Bah, comme je disais tout à l'heure, on se doutait un petit peu qu'il y avait un écart de niveau, parce que Marlon Vera, il s'est quand même, excusez-moi l'expression, mais il s'est fait rouler dessus par Cory Sandhagen récemment. Pardon. Et en fait, oui, moi je voyais O'Malley gagner assez facilement, mais parce que on a vu dans leur carrière respective que il y avait une différence de niveau. Je me disais peut-être Vera qui sort le truc de son chapeau un peu, on l'a vu avant, un Leon Edwards qui met KO un Kamaru Usman, tout ça.
C'est ça, Vera, il a ce petit côté un petit peu folie sur certains combats qui aurait pu sur un coup faire basculer le truc,
mais ça n'a pas été le cas. Et il s'est fait et tabassé pendant 5 rounds.
Il a pas pris un round.
C'est impressionnant. Alors moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il ne soit pas allé dormir. À part ça, il a rien proposé. Quoi.
C'est ça, parce que,
il a pas pu. C'est pas qu'il a pas voulu, c'est qu'il a pas pu. Parce que Sean O'Malley était trop. Il était trop fort, tout simplement.
C'est vrai qu'on n'est pas passé loin d'un KO de Sean O'Malley. Enfin, Sean O'Malley a failli mettre KO Marlon Vera sur un genou chaud. Genou sauté.
Non, le genou à terre.
Il me semble que c'était sauté, j'ai un doute. Bon, sur un
entre
coup de
les
genou,
deux.
C'est ça, sur un coup de genou, Sean O'Malley qui envoie un coup de genou en plein dans
et
le
Vera qui plonge dedans.
De Vera qui plonge dedans et Vera ne tombe pas. Ça, dans 95% des cas, ça c'est dodo, ambulance, terminé, bonsoir. Quoi. donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Prestation plus que convaincante de Sean O'Malley, qui pour la suite va sûrement se prendre un petit géorgien en la personne de Merad Valishvili. Ça va être un combat intéressant aussi.
Eh bah, du coup, oui, ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait juste avant, là, pendant la pause. Parce que oui, on discute pendant les pauses, on n'attend pas en silence. Mais ce qu'on disait, c'est que moi, je me demande comment ça va se passer O'Malley de Valishvili. Donc contre Merab qui a gagné récemment.
Merab qui nous impresse de plus en plus à chaque performance.
Ah oui, très impressionnant comme combattant. Il a énergie illimitée. Il a un glitch, c'est-à-dire que il est jamais fatigué. C'est vraiment impressionnant. Et jusqu'à récemment, les gens disaient ah mais non mais Sean O'Malley, maintenant il va combattre Marlon Vera, c'est pas un vrai. Contender, c'est pas un vrai candidat au titre. C'est quand il va combattre Merab que ça va être. Pardon, je suis désolé. C'est quand il va combattre Merab que ça va être compliqué. Et en fait, moi, de plus en plus, je me dis que si Sean fait un camp grosse, grosse défense de lutte, si ça reste debout avec Merab, bah, il va rester champion, le Sean. Hein,
est-ce qu'il a même vraiment besoin de faire un camp de défense de lutte quand on sait sa qualité pour gérer la distance et en plus la qualité de son allonge qui permet de le toucher.
Mais c'est Merab. Merab qui a réussi à malaxer Petryan pendant 5 rounds.
C'est vrai.
Voilà, une des performances qui t'a le plus marqué, je crois, dans l'histoire du MMA. Donc,
C'était, voilà, c'était impressionnant.
C'est un monstre, Merab, mais je me dis.
Moi, j'ai hâte de ce combat, en tout cas.
Voilà, on va avoir des réponses et ça va être intéressant, je pense.
Ouais. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce main event de l'UFC 299. On arrive doucement sur la fin de l'émission. Je vais juste faire un petit point rapide sur les combats qu'il y a eu de la carte. Donc, il y a eu une victoire de Petryan. Donc, celle-ci, elle lui avait fait du bien contre Song Yadong, voilà, qui regagne après 3 défaites consécutives. On a eu la victoire de la tête montante des poids welter, donc des poids mi-moyens, Jack Della Maddalena, face au vétéran Gilbert Burns. Voilà, donc victoire un petit peu sur le gong, sachant que Burns avait vraiment dominé les rounds. Jack Della Maddalena qui a mis KO son adversaire. On a eu une entrée en fanfare pour Michael Venom Page contre Kevin Holland, qui a complètement dégoûté son adversaire, voilà, qui a gagné à la décision. Et ensuite, on a
qui a fait un combat très divertissant.
C'est ça, tout à fait, très marrant à regarder. Mmh. Et on a eu, donc, comme on a dit, victoire de Poirier, victoire de Sean O'Malley. Rapidement aussi, on va parler de Ngannou Joshua.
Attends, je rajoute juste un truc, parce que déjà la dernière émission, vous m'aviez dit non, mais faut pas en parler et tout, et j'avais raison de vouloir en parler.
Robelis d'Espagne.
Même les combats qu'il y a eu à part ça, Curtis Blades qui met fin à la série de victoires de Jelton Almeida, ça fait du bien parce que j'en avais marre de voir Jelton Almeida gagner des combats en faisant des câlins à ses adversaires pendant 3 rounds. Donc ça, déjà, il va peut-être changer de stratégie du coup maintenant. Matheus Gamrot qui gagne contre Rafael dos Santos, bon bah ça le fait monter dans les classements, c'est super.
Va directement à Robelis d'Espagne.
Exactement, Robelis d'Espagne qui a fait ses débuts, qui avait au moment du combat un temps cumulé
moins de 30 secondes sur ses 4
derniers
combats.
Moins de 20 secondes sur ses 3 derniers combats. Et ben on se disait non mais c'est bon, il va arriver à l'UFC, ça va peut-être le montrer que c'est une autre ligue. Il a mis à KO son adversaire en 18 secondes, donc pas de challenge. Ouais, voilà, et en plus il l'a mis KO vraiment de manière un peu rigolote parce qu'il était complètement déséquilibré. Ouais. Il a une puissance, c'est terrible, c'est phénoménal.
Il était sur le recul et il a envoyé 3-4 patates un petit peu de manière aléatoire. Il y en a une qui a touché, hop.
Le aléatoire, je sais pas. Mais en tout cas, mais il a une puissance. On a un nouveau Ngannou, quoi. C'est toute proportion gardée. Un nouveau Ngannou.
Donc justement, exceptionnelle transition, Hugo, de ta part. Francis Ngannou, l'image qu'on n'aurait jamais cru voir dans notre vie, je pense. Francis Ngannou qui se fait éteindre par Anthony Joshua dans le round 2, donc combat en boxe anglaise qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. On pensait à Ngannou, une force de la nature intuable. Il s'est fait vraiment éteindre.
Qui avait pour certains battu Tyson Fury, l'actuel champion en titre.
C'est ça. Et là, round 2, Anthony Joshua, qui dans un premier temps envoie un bras arrière qui sonne salement Ngannou. Il se relève et 5 secondes après, Anthony Joshua il renvoie une overhand ou un crochet, je crois.
Et il s'est plié, Ngannou.
Et Ngannou est vraiment tombé inconscient, terminé.
En anglais, on dit folded, donc plié. Exactement. C'est cette image de chaise pliante qui se plie et tombe au sol. Et c'était vraiment ça. C'était terrifiant. Parce que Ngannou, d'habitude, c'est lui qui fait ça.
C'est ça.
Il ne les prend pas. Il les a jamais pris. Il l'a bien pris. Il en a parlé après en conférence de presse. Il a rigolé un peu en disant du coup, c'est ça que ça fait de se battre contre moi.
Donc donc une image qu'on ne s'attendait pas à voir en boxe anglaise.
Maudite.
Donc maintenant, on attend à Ngannou prendre une pause et revenir en MMA, qui est son sport de prédilection quand même.
Où ce sera beaucoup plus simple pour lui, je pense.
Voilà, c'est ça. Donc voilà pour cette émission, on va conclure là-dessus, on a fait le tour. Merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre avec nous, poser des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, la première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, @lebagarreclub. Merci à vous, on vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.